franceinter.fr. France Inter.
Catherine Boulet.
Éric Delvaux.
Le 5-7.
Votre invité ce matin, Éric Delvaux, c'est le journaliste Stéphane Loignon, auteur du livre Big Bang Blockchain, la seconde révolution d'Internet. C'est paru aux éditions Talendier.
Oui, la blockchain. Retenez bien ce mot anglais, c'est la chaîne de blocs qui est annoncée comme la grande révolution sociétale avec ses versants, ses volets économiques, ses volets politiques aussi. Et c'est aussi bouleversant que ce qu'a été l'arrivée d'Internet. Bonjour Stéphane Loignon.
Bonjour.
Au départ, la blockchain, c'est un outil technologique qui permet simplement d'envoyer de l'argent en ligne sans intermédiaire. En quoi est-ce qu'il y a des débouchés révolutionnaires ?
Ce qui est intéressant, c'est que c'est une technologie qui paraît avoir des applications dans d'innombrables secteurs. Je pourrais en citer des dizaines, mais les plus importants, ce serait d'abord la finance, tout ce qui concerne le paiement, puisqu'effectivement, vous venez de le dire, on peut payer sans intermédiaire, c'est-à-dire sans carte bleue, sans compagnie de carte de crédit, sans banque. Les autres débouchés, c'est également l'énergie, par exemple, où on peut, grâce à la blockchain, mettre en place des systèmes un peu collaboratifs, où les gens vont produire et revendre leur énergie entre eux dans des micro-réseaux.
C'est aussi la fin de la fraude fiscale, notamment.
Ça permet d'une beaucoup plus grande traçabilité. Donc, il y a des applications, effectivement, dans la fraude. Après, il y a aussi c'est aussi un moyen pour certains fraudeurs, puisqu'il y a différentes blockchains, d'échapper au contrôle du fisc.
Donc, alors, pour qu'on comprenne bien, ce qui est révolutionnaire, c'est que ce système va permettre à chacun d'enregistrer ses actes. On parlait de paiement. Ça peut être aussi des actes notariés, des actes de propriété. Le simple fait d'envoyer à travers blockchain suffira à valider et à faire foi, c'est ça l'histoire ?
L'une des grandes caractéristiques de la blockchain, c'est que c'est immuable. Ce qui est inscrit dans la blockchain, on ne peut pas l'effacer par la suite. Donc ça permet d'avoir une sorte de ce qu'on appelle de notarisation des documents. Comme un notaire dans la vie réelle, sur la blockchain, on peut inscrire l'ADN d'un document et prouver ainsi qu'on était bien possesseur de ce document. Donc ça peut être un diplôme ou un titre de propriété immobilière à telle date. Et donc ça, il y a des applications administratives innombrables.
Oui, ça veut dire aussi que les administrations vont devoir se réinventer, comme les notaires d'ailleurs.
Voilà, tout à fait. Alors, en Estonie notamment, ils utilisent déjà la blockchain pour justement sécuriser les données publiques qui sont quasiment exclusivement sur Internet dans ce pays très avancé, très en avance sur nous.
Une des actualités dans ce domaine, c'est cette grande plateforme lancée par plusieurs grandes banques européennes, HSBC, Deutsche Bank, Société Générale, Natixis, UniCredit, KBC et j'en oublie. Elles viennent de lancer cette plateforme de financement international à destination des PME. Qu'est-ce que ça va changer et qu'est-ce que ça peut fluidifier dans le commerce international ?
Ce qui est intéressant, c'est que la blockchain permet de faire des échanges d'un pays à un autre sans passer par les intermédiaires habituels. Donc même au sein de secteurs qui sont déjà bien installés, ça va permettre à ces banques-là de faire des économies assez massives, en gros d'accroître leurs marges et aussi d'avoir des opérations, je pense, plus instantanées, plus sécurisées, plus transparentes aussi, puisque tous les participants à ce réseau-là pourront voir les échanges qui auront été menés. Et donc, il y a une garantie à la fois de transparence, d'efficacité, de rapidité et des intermédiaires en moins.
Mais la blockchain a aussi ses zones d'ombre, quelques incertitudes, quelques interrogations. Vous situez où précisément ?
Pour l'instant, il y a des petites limites d'efficacité, parce qu'en ce moment, on voit que beaucoup de gens s'intéressent aux grandes blockchains que sont le Bitcoin et Ethereum. Et du coup, il y a une espèce d'engorgement sur ces plateformes qui fait que, par exemple, il est devenu assez lent et coûteux de payer en Bitcoin, alors qu'il y a quelques mois, c'était un des avantages, c'était qu'on pouvait payer presque sans frais de transaction. Donc cet avantage-là, pour l'instant, il est victime de son succès. Après, il y a d'autres limites, qui sont notamment la consommation d'énergie qui est nécessaire pour faire fonctionner le système Bitcoin.
Oui, ce n'est pas un système très compatible écolo. Hein.
Pour l'instant, non. En tout cas, le système du Bitcoin qui demande une validation par un grand nombre de participants, ça fait travailler beaucoup de machines, de serveurs qui vont consommer énormément d'énergie. Donc ça, c'est pas très vertueux, mais c'est ça aussi qui permet la sécurisation des transactions.
Alors, il y a d'ores et déjà quelques applications concrètes de cette blockchain, mais c'est tout de même une révolution, non pas pour demain, mais pour après-demain, pour la généraliser. Pourquoi ?
J'ai l'impression que c'est un peu comme si on était en 1992 ou 93 avec Internet. On sent qu'il y a un potentiel, certes il y a beaucoup de sceptiques, mais on ne sait pas exactement ce que ça va donner. Là, on est encore face à une technologie qui est très neuve. Les grandes entreprises s'y intéressent depuis un an ou deux ans. Ce qui est intéressant, c'est que toutes travaillent dessus. Donc aussi bien des géants de l'informatique comme IBM que des géants de l'assurance comme AXA ou même la SACEM dans le domaine des droits d'auteur de musicaux. Vraiment, il y a des applications partout. Effectivement, pour l'instant, on ne peut pas les utiliser en tant que consommateur, mais soyons un petit peu patients aussi. Et ce qui est certain, c'est que le potentiel est très grand. Là, j'ai vu récemment notamment que l'ONU utilise maintenant la blockchain pour transférer de l'argent à des réfugiés dans des camps en Syrie. Donc, il y en a vraiment dans tous les domaines.
Et la France, avec ses chercheurs, ses ingénieurs, est plutôt bien placée sur ce segment de la blockchain.
Oui, alors il y a un bon écosystème de start-up en France, dont certaines réussissent maintenant à lever des fonds auprès de notamment de grandes compagnies d'assurance. Il y a des start-up comme Stratum par exemple ou Ledger qui ont levé chacune 7 millions d'euros au mois de mai. Donc c'est la preuve que ces toutes petites startups qui au début étaient quelques personnes commencent vraiment à se structurer. La CDC aussi, la Caisse des dépôts et consignations est en pointe sur le sujet. La Banque de France lance une étude sur le sujet. Vraiment, on voit que tout le monde s'y va au niveau institutionnel et au niveau des startups.
Et vous écrivez que le gouvernement français a été d'ailleurs pionnier dans la reconnaissance de la blockchain. Quel gouvernement et sur quel type de transaction?
Alors, c'est Emmanuel Macron qui a lancé, qui a autorisé l'émission de mini-bons sur la blockchain l'année dernière, au printemps de l'année dernière.
Et en Europe, c'était pionnier.
Cette reconnaissance officielle était pionnière. Il y a d'autres pays qui sont assez avancés, notamment l'Estonie, la Suisse également, qui est très très souple dans sa réglementation vis-à-vis des blockchains et qui est assez en avance.
Eh bien, pour tout comprendre de la blockchain, on lira ce livre très pédagogique que vous signez, donc Big Bang Blockchain, la seconde révolution d'Internet. Et c'est vous qui signez ce livre, Stéphane Loignon. Merci.
Merci à vous.
Et bonne journée.